Moi, c'est André Lumbumba, Okata Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, Okatanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce dernier numéro des Paroles aux auditeurs de cette semaine. La journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année et c'est depuis 1980 avec pour objectif principal la prise des consciences de l'importance du tourisme sur du point de vue social, culturel, économique et même politique. En marge de cette journée, Paroles aux auditeurs fait les points sur l'évolution du secteur touristique en RDC où il connaît beaucoup de difficultés, notamment le manque d'investissement, les déficit des promotions et la baisse des fréquentations liées à l'insécurité grandissante dans les zones de l'Est. Que proposez-vous pour développer le secteur touristique en RDC? Vos réactions et points de vue sont les bienvenus au 081-890-4969, 081-890-4339 pour intervenir en direct. J.R. Lungembo, Nadine Foula, Jean-Noël Mokondo sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meji. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Que faire pour que la RDC puisse développer son secteur touristique? Nous en parlons avec vous dans cette émission. Le secteur touristique qui connaît beaucoup de difficultés selon plusieurs statistiques. Qui ne gère ou régénère aujourd'hui que 0,001% des fonds pour les budgets nationaux? Qu'est-ce qui doit être fait pour le développement de ces secteurs? Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir dans cette émission qui vous ouvre les portes. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, bien sûr. Et nous avons dit que le secteur a connu aussi beaucoup des difficultés, notamment avec le déficit d'investissement, le manque de promotion, mais aussi l'insécurité grandissante dans les zones de l'Est qui a fait aujourd'hui que les secteurs touristiques ne puissent pas apporter de fruits comme attendu. Qu'est-ce qui doit être fait? Quelles sont les pistes des solutions? Nous avons en direct de Lubumbashi, Maître Machaka, qui est avec nous sur les antennes. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait pour développer les secteurs touristiques en RDC?
Merci beaucoup, monsieur Pierrot, de m'avoir accordé encore l'opportunité. Vous savez, il y a une histoire qui se passe dans notre pays. Nous négligeons certains secteurs qui sont aussi des secteurs générateurs de recettes. C'est comme le secteur touristique, monsieur Pierrot. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui s'ajoute sur ces domaines-là. Que ce soit les hôtels, c'est toujours les anciens hôtels que nous ont laissés par les berges. Et si vous regardez aujourd'hui, les privés qui priment dans ce secteur-là. Et vous allez du côté des parcs, monsieur Pierrot, les anciens parcs du gouvernement sont abandonnés. Et pourtant, ce secteur-là, ça fait partie aussi des secteurs touristiques et des secteurs générateurs de recettes, puisqu'il y a beaucoup de pays dans ce monde ici qui se développent à partir du tourisme, M. Pierrot. C'est un grand remède, M. Pierrot, et que notre gouvernement ne néglige en quel domaine de la vie sociale. Si nous avons aujourd'hui des difficultés dans certains dans la vie de la population congolaise, c'est parce que nous nous penchons seulement dans un certain secteur, plus précisément le secteur minier, en négligeant d'autres secteurs de la vie. Or, ce secteur-là devait pallier à certaines situations de la vie sociale de la population. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque pour notre gouvernement pour créer de nouveaux parcs, ou bien créer, ou bien construire de nouveaux hôtels impeccables. Puisque aujourd'hui, les privés prennent notre gouvernement en otage, puisque ce sont les privés qui ont des hôtels confortables, ce sont les privés qui créent des parcs là confortables. À ce moment-là, je ne vois pas comment notre gouvernement peut seulement se contenter de percevoir des recettes, des taxes sur les histoires des privés au lieu de créer leurs d'histoire propre qui peuvent commencer aussi à leur générer les recettes et en même temps qu'il est en train de concurrencer les privés là qui travaillent pour leurs propres intérêts au détriment de la population, M. Pierrot. Je vais vous donner l'exemple de Kachogwe aujourd'hui. Je ne fais pas la publicité de quelqu'un puisque aujourd'hui Kachogwe est devenu un site touristique. Il y a des étrangers qui s'en vont là-bas pour aller se réjouir. Il y a l'argent qui laisse là-bas. Comment un privé peut créer quelque chose générateur de recettes et qu'un gouvernement comme le nôtre peut ne pas être en mesure de créer de nouveaux sites touristiques? Il faut que notre gouvernement puisse d'abord réhabiliter, donner la valeur à ces anciens sites touristiques et créer de nouveaux sites touristiques conformément à l'épanouissement de la population. Dernièrement, il y a l'année passée, un ministre provincial avait pris la décision d'interdire à tous les Chinois ici, chez nous à Lubumbashi, de rester dans les containers ou bien de construire leur maison propre. Il faut qu'ils aillent se faire loger sur les hôtels. Mais depuis que cette mesure-là a été prise, aucune réaction ne s'est prise. Nous voyons toujours les Chinois et les Indiens restent dans leurs conteneurs qu'ils ont construits, M. Pierrot.
Voilà, merci beaucoup,
maître. Le gouvernement ne doit pas négliger aucun secteur de la vie sociale.
Merci, merci beaucoup. Vous estimez, maître Machaka, qu'il faudrait que le pouvoir public s'investisse dans les secteurs touristiques. D'ailleurs, on se rappellera au mois de juin dernier qu'au niveau du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, hein, le ministère qui gère aussi le tourisme, avait organisé un atelier sur le plan directeur pour le développement du tourisme. Si la RDC peut aujourd'hui devenir une destination touristique, à plusieurs réflexions, mais malheureusement là, on a eu beaucoup de soucis. On devait en principe avoir un représentant du ministère de l'Environnement qui a aussi le tourisme en charge. Les contacts prières avec le ministre n'ont pas permis qu'on puisse avoir un délégué dans cette émission. Sinon, il aurait expliqué un peu ce qui a été retenu au niveau de cet atelier. Mais dis-moi, vous pensez qu'il serait mieux que le gouvernement puisse d'abord réhabiliter les sites touristiques qui existent dans chaque province, les réhabiliter, créer d'autres et les entretenir pour permettre à ce que ces secteurs puissent aussi générer des recettes plutôt que se concentrer seulement sur le secteur minier comme on le voit souvent. Merci beaucoup, maître Machaka. Maître Adrian, vous êtes à Kananga, au Kassai occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierre Lamèche.
On vous écoute. Vous êtes dans la province du Kassai occidental. Il y a aussi des sites touristiques dans votre province. Y a-t-il un projet aujourd'hui, une activité touristique qui s'organise ou bien, comme l'a dit notre maître Machaka, on a tendance à négliger ces secteurs. Mais si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qui doit être fait pour aller de l'avant dans ces secteurs?
Ok, merci Pierrot. C'est un silence radio ici dans la province du Kassai occidental. Aucun projet n'est ciblé. Et puis, vous allez vous rendre compte, Pierrot, que nous nous posons des questions et nous regrettons pourquoi le secteur touristique, ce secteur-là est vraiment négligé par le gouvernement congolais. Or, nous savons que dans le monde, il y a de ces pays-là qui vivent que de l'air vraiment, donc, qui ne vivent que de ces secteurs-là touristiques. Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas. Lorsque vous prenez la province du Kassai occidental, quelques rares sites touristiques qui existaient auparavant, mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est là qu'on a vendu donc à des privés, c'est devenu des parcelles des gens, c'est devenu des concessions, donc on ne sait pas vraiment à quel sens se vouer par rapport à cette question-là. Bon, je ne serai pas du tout très long parce que le mal vraiment est profond, et si je me mettais à analyser point par point, ça risque un peu de prendre toute une émission, mais je pense pour donner des solutions, Pierrot, je pense deuxièmement, premièrement, il faut que le gouvernement puisse d'abord voir dans son budget, augmenter un budget donc par rapport à ce secteur-là touristique pour, si ce n'est pas possible de réhabiliter, mais qu'on puisse quand même créer d'autres sites touristiques, ce n'est pas magique, il suffit tout simplement qu'on y mette un peu de la bonne volonté politique. Donc c'est possible. Et puis deuxièmement, il faut vraiment imposer la paix. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que côté Est, là, c'est une partie vraiment très riche. Sans la paix, vous n'aurez pas vraiment des investisseurs pour venir investir par rapport à ces sites-là. Si on impose la paix, tout le monde sera libre maintenant, même les Congolais, même les expatriés, exergue les deux propositions, ça sera vraiment une solution et notre pays va aussi donc décoller et développer donc par rapport à ces sites touristiques. Voilà ce que je pouvais proposer, Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous pensez qu'il faut d'abord développer deux axes, le budget plutôt consacré au secteur touristique. On doit avoir un budget conséquent qui doit permettre de créer des sites touristiques, des réhabilités d'autres. Mais aussi, il faudrait qu'on puisse lutter pour l'instauration de la paix et la sécurité dans les provinces de l'Est qui sont vraiment aussi une destination touristique de premier plan dans notre pays. Et avec l'insécurité, il sera difficile aujourd'hui même que ces milieux soient fréquentés. On se rappellera même que les gorilles de montagne, à cause de l'insécurité, avaient fui les bruits des bottes pour se réfugier du côté du Rwanda. Et à quelques années, ces gorilles étaient revenus quand la situation sécuritaire était devenue normale au niveau du parc des Virunga et partout ailleurs. Alors vous souhaitez qu'on puisse s'investir dans le retour de la sécurité et la paix dans ces provinces, et ça va permettre à ce que le secteur touristique y soit développé. Merci beaucoup, Adrien. Étienne, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour, Étienne. Étienne, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour à Maître Machaka et Maître Adrien qui viennent de me précéder.
On vous écoute, Étienne.
Ok. Merci, Monsieur le journaliste, et surtout pour l'importance du sujet du jour. Monsieur le journaliste, vous savez que le secteur touristique, c'est un de grands secteurs qui pouvait régénérer beaucoup de recettes, comme venait de dire mes précédents. Mais curieusement, ce secteur est totalement négligé par la République démocratique du Congo, mais on ne sait pourquoi. Donc, comme venait de dire Maître Machaka, là, il y a certains pays qui ne vivent que de leur secteur touristique. Mais monsieur le journaliste, vous comprendrez que en République démocratique du Congo, le secteur touristique est totalement négligé et bafoué. Les anciens sites touristiques qui existaient déjà ou qui existent au Congo ne sont ni entretenus et ni soignés. Vous comprendrez, monsieur le journaliste, hormis les espèces rares des gorilles, qui étaient en République démocratique du Congo et qui sont en train de se perdre, comme vous venez de le dire là, il y a aussi même la perte totale des okapis, qui, si les autorités pouvaient prendre soin de certains de nos parcs, vraiment, les problèmes économiques au Congo, nous n'en espérons pas, parce que ce secteur touristique pouvait régénérer beaucoup de recettes et ça augmenterait vraiment le budget congolais. En dehors de ce qui existait déjà, il y a beaucoup d'autres endroits où, si le secteur, on pouvait vraiment entrer ce secteur, on pouvait créer beaucoup d'autres sites touristiques. Monsieur le journaliste, je suis dans la province de l'Équateur, précisément dans le district de Kibubandi et le territoire de Guémena. Je voudrais vous faire découvrir une chose. Quand vous parcourez le district de Kibubandi et précisément le territoire de Guémena, monsieur le journaliste, vous comprendrez qu'il y a des sites que, si le ministère ayant à sa charge le tourisme pouvait vraiment chercher, mener des investigations pour créer d'autres sites, on pouvait même aller. Quand nous prenons l'accès au secteur de Bangui, à 21 km, vous prenez un endroit où on appelle la rivière Mulungu. Mais c'est là, c'est un site touristique où si on pouvait mettre sur pied une politique de créer d'autres sites, mon frère journaliste, vous comprenez que c'est un endroit qui pouvait vraiment attirer les étrangers, attirer les gens, et ce serait un site touristique. Quand vous prenez même l'axe de Mbari, à quelques 25 km à Bodome, et vous allez vers Zambouni, vous comprenez qu'il y a une série de collines, de montagnes, et vraiment, une fois arrivé, ça attire, même si on est au passage avec véhicule, ça attire les gens. Donc moi, je pense que c'est une négligence criante de nos autorités et je pense que cette émission a vraiment son pesant d'or.
Merci.
Et ça peut rappeler nos autorités de pouvoir vraiment revoir la politique pour le secteur touristique. Je pense que le Congo ne pourra pas continuer à avoir des petits budgets qui ne suffit pas et qui ne répond même pas aux besoins du peuple congolais.
Merci beaucoup, Étienne. D'ailleurs, vous avez évoqué la menace qui pèse sur les espèces rares. On se rappellera de presque comment le rhinocéros blanc ont été décimés. On se rappelle aussi la menace qui a pesé, qui continue à peser sur les éléphants, pourquoi pas les okapis avec la bande à Morgan. Vous vous rappellerez comment ils ont été sérieusement abattus dans la réserve de la faune à Okapi au niveau des Poulou. Voilà autant d'espèces qui sont menacées. On a évoqué les cas des gorilles de montagne qui se sont retrouvés en refuge au Rwanda à cause des bruits des bottes. Et vous souhaitez que le pouvoir public puisse s'investir. Et là aussi, comme l'a dit Maître Machaka, à Lubumbashi, c'est au niveau local, parce que ça peut aussi aller par le partenariat public-privé. Au niveau local, le gouvernement provincial qui peuvent s'organiser avec les privés, comment pouvoir réhabiliter, créer d'autres sites touristiques et permettre aussi de renflouer les caisses de l'État avec l'argent en provenance du tourisme. C'est important. Et vous souhaitez qu'à travers cette émission, le pouvoir public soit interpellé pour s'investir dans les secteurs touristiques. Clément, vous êtes en Bougima et gardez la ligne RAL-REI qui est à l'ICASI. Nous avons aussi les messages, hein, les auditeurs qui ont réagi par la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ben Etokwala, il dit ceci: en RDC, il y a toute une série de difficultés qui empêchent le développement du secteur touristique. C'est difficile de pouvoir réparer parce qu'il y a aussi un problème de mentalité. Beaucoup de personnes ne pensent pas à développer les secteurs touristiques. Et d'ailleurs, ça risque d'être seulement réservé aux étrangers. Qui a dit que le secteur touristique, il n'y a que les étrangers qui doivent faire le tourisme au pays? Il faut aussi travailler sur la mentalité de la population pour que ça devienne l'affaire de tout le monde. Kenny Mukendi dit ceci: qu'est-ce que les gens vont venir voir en RDC? Les femmes violées ou les policiers qui ne pensent qu'à eux-mêmes? Voilà la question qu'il se pose. C'est pourquoi ça doit rejoindre les idées d'autres compatriotes qui ont pensé qu'il faut d'abord créer, réhabiliter les sites touristiques et comme ça on pourra vendre l'image positive du pays. Justine Fata qui nous écrit de Ouvira: je pense que ces milieux sont moins fréquentés non seulement à cause de l'insécurité mais aussi par manque de logements pour les touristes. Cela veut dire qu'il faut développer les secteurs de l'hôtellerie, hein, qui connaît aussi beaucoup de difficultés à part la ville de Kinshasa où on peut voir de gauche à droite des endroits où les gens. Faudrait-il encore que tous ces endroits puissent répondre aux normes et il faudrait ainsi avoir des hôtels là où les gens peuvent aller en tourisme. Justin Gakiwaki qui nous écrit des Boutembo: le secteur touristique doit être bien sécurisé pour que les visites puissent devenir fréquentes. La paix est la clé du bonheur. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons Clément Crispin à Kisangani, Ral Rey qui est à l'ICASI. Bonjour monsieur. Est-ce que Ral, vous êtes avec nous sur les
antennes? Allô, oui.
Oui, pourriez-vous arrêter votre poste récepteur, hein?
Oui.
Ral, oui, arrêtez votre radio s'il vous plaît, comme ça vous allez suivre l'émission à travers les téléphones portables. Ça va nous permettre d'avoir une communication directe. Si vous nous écoutez, Ral Rey à l'ICASI, vous pouvez maintenant intervenir par rapport à ces sujets, oui.
Oui, je vous suis 5-5.
Allez-y.
Moi, je voulais seulement intervenir à propos du ministère. Le ministère du tourisme doit avoir une politique d'extrémité. Donc, vulgariser ces secteurs du tourisme afin que tout le monde puisse un peu avoir quand même l'image des sites touristiques qu'on en a. Et chercher un peu à élaborer des cartes touristiques, chercher un peu à ranger les hôtels de l'État qui sont quand même de l'agré et autre chose. Et les pommes aussi qui reviennent, c'est les budgets, parce que il y a de ces ministères-là qui n'ont pas quand même l'amabilité de montrer leur budget. Ils sont en train de fonctionner avec ça. Et tout le temps, ils nous font toujours cacher quelques sommes-là ils ont pour réhabiliter leur secteur. C'est un peu ça que je voulais un peu intervenir avec.
Merci beaucoup Ral Rey. D'ailleurs, vous avez évoqué la politique au niveau du ministère. On se rappellera qu'il y a eu aussi des structures qui ont changé. On vous rappellerait qu'à partir de 1966, les gouvernements de cette période-là n'ont pas pu mettre à profit la stabilité retrouvée pour promouvoir les secteurs, l'industrie du tourisme. Hein. Mais il y a eu plus, selon les observateurs, la création de beaucoup de services publics qui devaient en principe s'occuper du tourisme. On a vu en 86 naître l'Office national du tourisme comme une institution publique qui devait en principe s'occuper de la promotion, de la vente, de la publicité même de secteur touristique. Mais il reste à savoir comment ces services fonctionnent-ils. Il y a eu aussi d'un côté la création, le fonds de promotion du tourisme. Tous ces services fonctionnent comment? Tout ça, c'est voilà autant de questions au niveau du ministère qui a en charge le tourisme, hein, et savoir comment on peut y investir avec un budget conséquent pour le développement de ces secteurs. Merci beaucoup, Ral Rey. Clément, vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental. Bonjour, Clément.
Oui, bonjour, Pierrot. Bonjour, auditeur de la radio.
On a des petits soucis avec votre ligne, hein. Apparemment, vous sortez difficilement, oui.
Oui, allô, Pierrot.
Oui, on vous écoute avec beaucoup de difficultés, mais allez-y.
Oui, je disais ceci. Le secteur du tourisme, c'est un secteur très sensible qui englobe presque tous les ministères. Et s'il n'est pas beaucoup plus accentué là-dessus, c'est-à-dire que ce sont tous les ministères qui sont en faillite. Alors je voudrais demander à ceux qui nous suivent en ce moment que le secteur du tourisme, c'est un secteur qui prend d'abord le transport en charge, l'environnement en charge, l'intérieur en charge, et c'est-à-dire que ce sont autant de ministères qui sont concernés. Alors si le secteur du tourisme n'est pas aménagé, c'est-à-dire que c'est tout un gouvernement qui est en faillite, alors il faudrait que... Si les ministères ne fonctionnent pas, autant mieux que les ministres démissionnent pour que certains d'autres prennent la place et que la promotion de ce secteur puisse être vue, parce que c'est un secteur qui fait entrer autant de millions de dollars pour le gouvernement. Et pour qu'un gouvernement congolais tel que le nôtre, qui a autant de sites touristiques, il serait mieux que le Congolais se mette et s'imprègne là-dessus pour que le secteur produise aussi de l'argent. Alors nous demandons à ceux-là qui tiennent le pouvoir à main de se mettre, de prendre la responsabilité et de promouvoir ce secteur et que autant de millions entrent dans la caisse de l'État et du Trésor public. Voilà pour ma petite contribution, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Clément. Vous l'avez bien souligné que c'est une question transversale. C'est pas seulement le ministère qui a en charge le tourisme, c'est aussi le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a évoqué le problème de la sécurité. C'est aussi le ministère de Transport et voire des Communications, parce qu'il faudrait que les touristes puissent se développer et se déplacer plus tôt pour aller voir un site touristique. Il faut utiliser la route, il faut prendre un avion. Il y a un problème des aéroports, il y a un problème de la navigation qui se pose, il y a un problème des routes qui se pose. C'est pas seulement le problème du ministère de l'environnement qui a le tourisme, mais il y a aussi le problème des affaires foncières, les endroits, la gestion même des espaces, c'est un problème. Et l'urbanisme, habitat, il y a le problème de construction. Voilà autant de ministères qui sont impliqués dans le secteur. Et vous pensez que si ça ne marche pas dans le tourisme, c'est qu'il y a une défaillance au niveau des autres ministères, comme c'est une question transversale. Et vous pensez qu'il serait mieux pour le pouvoir public, d'une manière globale, de s'investir pour développer ces secteurs et réhabiliter ainsi la caisse de l'État. Merci beaucoup, Clément. Aloïs, vous êtes à Kananga Crispin, à Kisangani, vous allez prendre la parole. Mais il y a aussi cet avis de notre ami Arafat Tchamuta, qui nous a écrit dès Lubumbashi. Il dit ceci: pour développer ces secteurs, le gouvernement congolais doit investir plus non seulement à l'est du pays, mais sur toute l'étendue de la République. Prenons l'exemple de la ville de Lubumbashi, où toutes les espèces protégées sont en train d'être vendues aux particuliers. Nous disons non à l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga. Selon moi, l'État congolais doit mettre de l'ordre dans sa boutique. Et les mots qui rongent l'État congolais et le manque de volonté politique sur tous les plans de la vie nationale. Rodrigue Matabishi de Butembo dit ceci: tant que l'insécurité ne finira pas en RDC, la solution à ces problèmes n'aura pas lieu, car nul ne peut s'hasarder à venir visiter les endroits qui sont entre les mains des criminels, et sur ces endroits-là qui doivent être en principe visités. Le Paul Labalèze Louyamba qui nous écrit des Kananga: le tourisme à RDC souffre de divers maux. Il faut ôter de chef les idées selon lesquelles Kinshasa est la RDC. À Kananga, nous avons aussi des lieux à visiter, mais c'est comme si cette tâche est laissée dans les mains des particuliers qui construisent des petits hôtels que je crois qui ne répondent pas aux normes pour accueillir des touristes. Merci beaucoup, cher compatriote Chris. Vous êtes à Kisangani, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, Jonas, et bonjour à tous ceux qui sont dans le parc. Garamba et à la station de Paul.
Et dites-nous, il y a eu des problèmes d'insécurité qui ont attaqué, on se rappellera bien, quelques mois, la station des Poulous. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Y a-t-il des gens qui fréquentent les lieux? Qu'est-ce qui se passe actuellement, Crispin?
Ah non, pas encore. Parce que jusque-là, vous êtes sans ignorer que cette station, en fait, n'est pas encore remise normalement en service comme ça a été. Moi, je crois que le vrai problème, c'est la volonté politique et qui peut se traduire à travers une détermination à éradiquer tous ces petits groupes qui, en fait, sont là. Parce que je ne crois pas qu'un touriste peut s'hasarder à venir tant qu'il sait qu'au même moment, il y a des gens qui font des histoires d'impunement, qui tuent même des okapis. Et qui jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas les traquer, on ne l'a jamais eu. On se demande qu'est-ce qui se passe finalement. Quelqu'un qui n'avait commencé qu'avec une seule arme, un braconnier, et aujourd'hui, mais impossible à le trouver, on ne sait pas. Alors, le vrai problème, moi, je crois, c'est la sécurité et l'infrastructure, parce qu'aussi, on doit aussi reconnaître qu'on n'a pas de route qui répondent aux normes, en fait. Surtout la route, par exemple, actuellement, Ituri qui passe à travers cette station est complètement en faillite là. Alors ce sont des vrais problèmes. Je crois que l'État doit beaucoup s'investir dans cette histoire de sécurisation de tous les coins et recoins du pays et s'investir dans l'infrastructure. C'est après que pourra venir l'hôtellerie parce qu'il ne croit pas qu'on peut faire l'hôtellerie tant qu'on n'a pas des touristes qui viennent, qui craignent l'insécurité et qu'il n'y a même pas de route. Je crois que le tourisme ne peut que venir de lui-même si tous ces paramètres-là étaient réunis. Alors le gouvernement vraiment devrait être aussi plus déterminé et clair à travers la gestion des petits groupes armés des insécurités, ça et là.
Merci beaucoup, Crispin. D'ailleurs, comme le venait de le dire Clément, c'est une question transversale. Parce que si on ne peut pas atteindre la station des Poulous à cause de la route, et c'est la responsabilité au niveau du ministère des Transports et Voies des Communications. Et c'est ainsi que vous pensez que la volonté politique est la clé hein, pour qu'on puisse avoir des initiatives qui vont de l'investissement pour les secteurs touristiques, de la création même des sites. Et pour vous, le mot qui est important, c'est la volonté politique qui doit résoudre cette question au-delà de tous les services qui ont été créés. Nous avons parlé de l'Office national du tourisme, le secrétariat général du tourisme qui devait aussi assurer la promotion du tourisme, la propagande, la création des bureaux des renseignements pour les touristes, l'aménagement des sites touristiques et l'organisation de l'industrie hôtelière et pourtant qui devait aussi dans ses attributions créer le patrimoine hôtelier de l'État. Et ce qui est vrai, c'est que tous ces services ont des sérieux problèmes de fonctionnement aujourd'hui pour résoudre et promouvoir ces secteurs. Il faut de la volonté politique, comme vous l'avez dit, pour qu'on puisse développer ces secteurs. Aloïs, qui est à Kananga, Rachel Aïsiro, Jiris Alboumbashi, vous allez garder la ligne tout à l'heure, vous allez intervenir. 081-890-49-69 pour intervenir en direct. 081-890-43-39 pour intervenir en direct dans cette émission. Je rappelle encore 081-890-49-69 et 081-890-43-39.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Aloïs, vous nous appelez des Kananga au Kassai Occidental, bonjour. Aloïs, bonjour.
Les auditeurs de la radio Okapi.
Nous dégageons ensemble des pistes et solutions pour arriver à développer les secteurs touristiques en RDC, et particulièrement dans les milieux où nous vivons. Quelle est votre proposition?
Merci beaucoup de la parole, monsieur le journaliste. Je suis très content de m'avoir associé à ce débat sur un sujet combien important au cas où le tourisme constitue un secteur qui n'est pas à négliger dans le domaine de fiscalité de l'État. Je vais vous faire un témoignage, monsieur le journaliste, parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai effectué mon stage de professionnalisation avec comme cadre l'hôtel des villes de Kananga. Pendant la ronde que j'effectuais, un jour, j'ai été à la division urbaine du tourisme où j'ai reçu des témoignages de la part des autorités avec qui j'ai eu à m'entretenir au sein de cette division qui m'ont témoigné de la façon dont le secteur touristique est fournissant dans l'élargissement de l'assiette fiscale de l'État. Mais tout en poursuivant notre entretien avec ces autorités, à la question de savoir quelle était la politique du gouvernement congolais pour améliorer ce secteur, elles nous disent, elles ont vraiment éclairci la situation noir sur blanc en disant que l'État semble abandonner vraiment ce secteur. Je crois qu'ici à Kananga, je crois en 2008, on avait publié un dépliant touristique par l'hôtel des villes de Kananga auquel j'ai fait allusion, en énumérant les différents sites touristiques, entre autres, certaines universités, certaines rivières, certaines places publiques, les hôtels et j'en passe. Mais le gros des problèmes, comme l'a dit Maître Adrien qui est intervenu avant moi ici à Kananga, c'est qu'il n'y a pas une politique que le gouvernement a mis en place dans ce domaine. Voilà pourquoi, comme ma proposition, je rappelle seulement à l'État à exercer avec toute compétence ils sont vraiment dévolus dans ce domaine. Je vous remercie.
Merci beaucoup Aloïs, c'est un bon témoignage. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas vraiment un plan de développement du secteur touristique, ça pose aussi, c'est le même problème à Kananga. Et pourtant au niveau du pouvoir public, comme on le disait tout à l'heure, parce que beaucoup, plusieurs personnes sont revenues sur l'investissement de l'État, du côté de l'organisation, nous avons évoqué tout à l'heure l'Office national du tourisme, le secrétariat général du tourisme, les fonds de promotion du tourisme. Voilà autant des services. Vous pensez que si ces services sont dotés de moyens, ils peuvent vraiment travailler avec un plan bien élaboré pour développer les secteurs touristiques, mais aussi à Kananga, où vous avez beaucoup de sites, mais qui, malheureusement, il n'y a pas un investissement pour ça. Merci beaucoup, Aloïs. Rachel, vous êtes à Isiro, en province orientale. Bonjour.
Hello, bonjour.
On vous écoute. À Isiro, qu'est-ce qui doit être fait pour développer les secteurs touristiques?
Premièrement, je dirais qu'il faut d'abord commencer par créer donc les secteurs touristiques, parce qu'il fait chaud et il n'y en a pas. Et ce que je voulais dire, c'est que les amis ont dit la sécurité, tout ça. Donc, de tels endroits, ce sont des endroits qui doivent être bien sécurisés, renforcés donc des gens. Il n'y a pas seulement des étrangers qui doivent venir visiter ou faire le tourisme ici. Et il y a d'ailleurs nous-mêmes aussi. Le Congolais, nous avons souvent, quand je parle de nous-mêmes, je vois, par exemple, pendant la période des vacances, il y a des enfants, au lieu de faire, donc, laisser les enfants, on peut les amener dans des sites touristiques et tout ça, leur faire visiter, leur montrer, et ça, ça inspire bien les enfants. Et à part là, d'ici, je me rappelle, je ne sais pas si quoi je vais dire, mais ce que je dirais, il n'y a pas de sites touristiques ici à Isiro. Et ce que je dirais au gouvernement, c'est de faire un peu d'effort pour créer un peu de sites partout pour permettre aux enfants et aux étrangers qui peuvent venir dire que non, un jour j'irai faire un tour à Isiro, faire le tourisme à Isiro, tout ça, et venir au moins qu'ils puissent trouver quelque chose qui fait assez limite, soit au niveau de la capitale ou tout ça, même Isiro aussi, ça fait partie aussi du Congo.
Merci beaucoup Rachel. D'ailleurs, en parlant du tourisme destiné vers l'étranger, c'était la difficulté entre 1935 et 1959. Il y a eu ces problèmes au niveau du pouvoir colonial où le tourisme était limité tout simplement à faire de la promotion, de la publicité à l'étranger, recevoir des touristes étrangers. Malheureusement, cela est resté un peu dans l'imaginaire où on pense plus que le tourisme est destiné aux étrangers. Il faut aller vers les étrangers, faire la promotion des sites touristiques. Et là, vous évoquez une question importante, c'est interne aussi. Il n'y a pas seulement, le tourisme n'est pas seulement destiné pour les étrangers, mais aussi pour les nationaux. Il faudrait la promotion des sites touristiques et permettre aux nationaux dans leur milieu. Quelqu'un peut partir de Kananga à Goma, quelqu'un peut partir de Mbujimayi à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kisangani, de Kisangani à Kananga. Le secteur peut être développé ainsi d'une manière interne. Mais à Isiro, vous souhaiteriez hein, qu'on puisse y créer des sites touristiques. Merci beaucoup, Rachel Jires. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
Et nous dégageons les pistes des solutions pour développer les secteurs touristiques. Votre point de vue?
Concernant moi, ici à Lubumbashi, nous avons beaucoup de sites.
Oui, j'y reste. Si vous pouvez arrêter carrément votre poste récepteur, s'il vous plaît, comme ça on communique à travers le téléphone portable. Arrêtez votre poste récepteur, ça va nous permettre de communiquer sans okay. Retour à l'antenne. Oui, merci, c'est bien, on vous écoute.
Ok, je disais ceci. Si nous, à Lubumbashi, nous avons beaucoup de sites touristiques, à l'exemple, je peux vous donner l'exemple des parcs. D'abord, il y a eu des parcs que les particuliers ont fait. Vous pensez qu'il y a le souci. Il y a même des expatriés qui viennent pour aller d'insister dans des parcs artificiels. Mm-hmm. Et si vous leur posez la question, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans des parcs nationaux, ils vous disent qu'il y a un problème d'insister.
Voilà, là on a perdu Jires qui est en train de témoigner. Il évoquait les parcs qui sont aménagés par les particuliers ou des visiteurs étrangers se rendent, mais malheureusement ils ont peur d'aller dans les parcs nationaux, les parcs naturels à cause de l'insécurité. Et on a perdu Jires. Joseph, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Perrault, de m'avoir accordé la parole. Je pense que le sujet est tellement meilleur pour le meilleur Congo. Premièrement, nous remercions le gouvernement pour tout ce qu'il est en train de faire en dépit de toutes les difficultés. Mais si nous penchons ailleurs et prenons l'exemple de l'Italie, Kenya et le Rwanda qui est ici tout proche, je pense que ces pays émergent pas mal grâce au tourisme. Premièrement, l'Italie. Si vous voyez les musées, tout ce qui se passe depuis le 5e siècle jusqu'à présent, ils sauvegardent, les Italiens sauvegardent leur milieu pour le tourisme. A fortiori, le Congo est encore vierge. À l'est, si vous arrivez, si vous arrivez à Shabunda, Kamituga, ces milieux sont tellement touristiques. Mais le fait d'y arriver, c'est un peu difficile. Je vous dis aujourd'hui, pour quitter Bukavu et arriver à Shabunda, ils sont un avion. Alors, il n'y a pas de route, il n'y a pas tous les moyens propices, il y a l'insécurité, donc il y a assez de difficultés. Alors, je pense que pour améliorer, il faut vraiment les moyens. Le gouvernement doit allouer un moyen pour les secteurs touristiques, puisque si ces secteurs pourraient exister au Congo, je pense que les budgets pourraient rehausser davantage, puisque les étrangers vont arriver et visiter. La fois passée, on était avec un touriste italien qui s'est promené. Il a dit que le Congo est tellement meilleur. Mais il n'y a pas les moyens. Vous voyez, pour se promener, il faut beaucoup d'argent. Or, s'il y avait des routes, je pense que ça devrait aller bien. Alors, pour les pistes des solutions, moi, je pense qu'il y a encore du temps. C'est encore possible de se retrouver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on puisse construire premièrement les routes, mais aussi de mettre tout... Donc, et tous les moyens propices et en jeu. Alors, ici à Bukavu, il y a beaucoup de parcs. Et je pense que pour visiter un parc par jour, on paye à peine des $500. Mais est-ce que vous allez visiter un parc là où il y a des interarmes, là où il y a les militaires qui va vous, presque vous tuer? Alors, il faut qu'il y ait d'abord la sécurité, mais aussi qu'on puisse augmenter les hôtels. Je remercie l'ISP de Bukavu qui a ajouté la filière de tourisme. Malheureusement, les jeunes étudiants pensent que le tourisme doit être seulement pour les étrangers, mais on devrait commencer, disons, même en 6e année, commencer à étudier ces cours. Ça va nous aider de trouver les pistes de solutions pour envisager, donc, et pour sauvegarder les milieux qui vont nous permettre de pouvoir gagner quelque chose. Puisque si le budget augmente, c'est grâce au tourisme. Mm-hmm. Je vous ai présenté tout à commencer les pays qui émergent pas mal. Merci.
Merci beaucoup, Joseph. D'ailleurs, c'est important, vous avez évoqué l'Italie, vous avez évoqué des pays qui ont gardé aussi leurs vestiges du passé. Plutôt, on se rappellera qu'il y a des bâtiments, qu'il y a des immeubles qu'on ne peut pas aujourd'hui détruire ni perdre comme ça, qui constituent l'histoire du pays, il faudrait les conserver. Et là d'ailleurs, si vous vous rappellerez, pour ceux qui ont déjà fréquenté le Cassin occidental, vous rendrez compte par exemple que l'immeuble qui a abrité les travaux de l'élaboration de la constitution de dite constitution de Loibourg, la première constitution du pays, quand vous allez le lieu où qui a abrité un grand forum comme celui-là, vous allez vous rendre compte que ça c'est une brousse, il n'y a plus rien comme souvenir, et pourtant ce sont des bâtiments qui ont servi pour l'histoire du pays. Et vous pensez qu'il serait mieux d'intérioriser la notion du tourisme à partir même de l'école primaire, qui dit tourisme dit la sécurité, l'accès au site, voilà ces investissements qu'il faudrait pour développer les secteurs. Mais bien sûr, il y a eu ces plans directeurs au niveau du ministère du tourisme, on aurait eu plus de détails avec un délégué du ministère, comme pris contact hier, mais malheureusement cela n'a pas été possible ce matin. Et nous allons ensemble avec vous plusieurs pistes de solutions dans cette émission pour développer les secteurs touristiques. Christian, beaucoup des compatriotes pensent que si ce secteur est développé, c'est une grande source de recettes pour le budget de l'État aujourd'hui. Mais le problème, c'est comment arriver à avoir ces recettes au niveau du pouvoir public dans les secteurs touristiques. Pour vous, quelles sont les pistes de solutions, Christian? Vous êtes à Bounia.
Oui, je salue tous les auditeurs de la radio de la paix. Et puis, ce que j'ai pu donner comme salut, le temps est vide. Au niveau de la sécurité, il faut d'abord la paix durable. Pour avoir cette paix durable, il faut allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Ouais, il faut pour avoir une armée disciplinée et puis une armée polie bien payée, parce que vous pouvez vous imaginer un militaire qu'on veut envoyer aller sécuriser quelque part, que par exemple, je ne dis pas que non, on le paye 20 000 francs. Il a par exemple 20 000 francs qu'on est en train de lui payer. C'est comme s'il est en train de sacrifier sa vie. On ne veut rien. En plus de cela, pourquoi avoir des militaires polis? Parce que si on est là pour son boulot, on n'est pas là. Je vais donner un exemple des boulots. Tu verras que non, il y a des militaires. Ils vendent les animaux, les bêtes qu'on est en train de tuer au parc. Ils sont en train de vendre ça. Et puis, il y a le moment qu'ils vendent ça dans des restaurants. C'est-à-dire que non, ça, ce sont des animaux du parc qu'on est en train de... On ne sait pas si... Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Par exemple, ici à Nitori, il y avait la grotte auparavant, que tout le monde allait visiter auparavant. Une grotte qui s'appelait Moroyo. Et il y avait vraiment des touristes qui venaient souvent là-bas pour aller visiter. En plus, ça a payé beaucoup plus d'argent pour le gouvernement.
Mm-hmm.
Et c'est là, maintenant, actuellement, pour y aller, même nous, les Congolais, on a du mal à y aller parce qu'il y a l'insécurité. Même réhabiliter la grotte, non, on ne sait pas. Il y avait une sentinelle qui était là pour bien garder la grotte, mais actuellement, à cause de l'insécurité, la sentinelle était disparue comme ça. On ne sait pas si c'était... Jusqu'au moment là où je vous parle, il y a personne qui s'y rend là-bas, et puis comme ça. En plus, c'est là, si le site va commencer à bien payer, on ne sait pas si l'argent va commencer à aller, ou parce que de toutes les façons, je ne sais pas si la population va commencer à bénéficier de ça. Donc, c'est un peu ça ma contribution. Il faut qu'il y ait des tirages. Il faut qu'il y ait vraiment bien payé. Il faut bien payer notre armée, parce que si on paye bien un militaire, il y aura l'amour. Quoi, il va bien défendre son pays, et puis c'est vrai que non, il n'y aura pas beaucoup de soirs là de la guerre, des soirs pareils. Merci beaucoup.
Merci Christian. Dommage qu'aujourd'hui les visiteurs ne savent pas accéder à la grotte du Mont Oyo à Bounia, en Ituri, à cause de l'insécurité. Mais d'ailleurs, vous avez dit qu'il faut une paix durable, mais au-delà de tout, il faut aussi qu'on ait des forces de sécurité bien formées, bien éduquées. C'est par exemple comme les policiers et les militaires pour éviter qu'ils ne se transforment en rançonneurs de visiteurs. Merci, merci beaucoup. Christian, nous avons Kalongé qui est à Kamina dans la province du Katanga. Bonjour Kalongé.
Oui, bonjour Monsieur Perrin.
On vous écoute monsieur. Qu'est-ce qu'il faut pour développer le secteur touristique et surtout par exemple dans votre milieu où vous êtes?
Oui Monsieur Perrin, vraiment nous sommes inquiets, mais nous saluons et nous remercions beaucoup tous les visiteurs qui sont intervenus. Nous sentons qu'ils sont vraiment branchés au problème qui range notre pays. Mais de toutes les façons, M. Perrin, si vous regardez dans le milieu où nous vivons, dans le district du Haut-Lomami, sur votre radio, Radio Okapi, vous passez chaque fois le problème des éléphants qui terrorisent les gens. Mais M. Perrin, quand nous regardons à ce qui précède, nous sentons qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique dans nos dirigeants. J'étais dans le parc, dans les eaux de Lubumbashi, il n'y a pas 5 jours. Monsieur Perrin, vous sentez qu'il n'y a même pas aucun éléphant, pendant qu'il y a des éléphants qui circulent, qui dérangent les gens pour rien, mais est-ce que n'était pas le gouvernement n'a pas le pouvoir de déplacer ces éléphants, les encadrer, vraiment créer de beaux sites pour que les gens viennent visiter? Monsieur Perrin, imaginez-vous dans les grands eaux comme celui de Lubumbashi, il n'y a pas d'éléphants, il n'y a que des lions, des girafes, il n'y a pas vraiment assez d'animaux là-bas, mais il n'y a pas de volonté politique. Moi, je pense que à ce niveau-là, si le gouvernement pouvait investir, même budgétiser le secteur vraiment de tourisme, c'est un secteur qui peut nous produire beaucoup d'argent. Imaginez-vous qu'il y a 100 personnes, 200 personnes qui viennent pour une visite dans le parc. Donc vous voyez combien d'argent le gouvernement est en train de lutter, parce qu'il n'y a pas seulement de volonté. C'est vrai, vous avez parlé des routes, les visiteurs ont parlé des routes, c'est vrai. Il faut des routes, il faut tout ça, mais tout ça, ça demande de la volonté politique. Mais le problème aussi, c'est que l'insécurité qui bat son fléau dans les Congo, dans la RDC, fait que les touristes puissent avoir quand même crainte, puissent avoir peur de venir visiter nos sites. Mais nous avons quand même de beaux sites. Mais si le gouvernement mettait seulement de la volonté politique dans tous les ministères, je pense dans tous les ministères qui peuvent permettre à ce que le secteur touristique puisse se développer, cela peut être possible. Mais dire que le gouvernement n'a pas de moyens, Monsieur Perrin, je pense que ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, ça fait honte de prononcer ça sur les antennes.
Merci beaucoup, Kalongé. Vous êtes très inquiet qu'on n'ait pas d'éléphants aux eaux de Lubumbashi. Et alors qu'il y a beaucoup dans le district de Haut-Lomami, des éléphants qui, chaque fois quand ils reviennent sur leur passage, on en a parlé plusieurs fois sur les antennes des Radio Capi, qui terrorisent la population, qui détruisent les champs. Pourquoi ne pas les encadrer? Pourquoi ne pas les orienter vers un parc où ils peuvent être visités par la population? Mais au-delà de tout, vous insistez sur la volonté politique, c'est elle qui doit conduire à l'investissement dans les secteurs touristiques. Comme c'est une question transversale, on a évoqué, c'est la volonté qui doit conduire aux travaux, à l'amélioration, à la construction des routes, qui doit faciliter le tourisme, à la lutte contre l'insécurité pour développer les secteurs. Merci beaucoup, Kalongé. Stoyen, vous êtes à Lubumbashi, Maurice Ichai, à Kinshasa, 081-890-4969, 081-890-4339.
Okapi danse, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Okapi danse, les mercredis jeudi de 21h à minuit. Le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Stoyen, vous nous appelez dès Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la fête.
Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Plusieurs propositions dans cette émission depuis le début. Hein, vous avez eu l'occasion de suivre plusieurs compatriotes qui sont intervenus. Alors, comment faudrait-il aujourd'hui dégager les voies et moyens qu'il faut pour vraiment arriver à développer ce secteur? Presque les amis sont revenus sur ce qui a été déjà dit, mais avec beaucoup d'innovation aussi dans leurs propositions. On vous écoute. Oui, citoyen, on vous écoute.
Oui, monsieur Pierrot, j'aimerais d'abord poser une question avant de donner des remèdes, puisque plusieurs auditeurs intervenants, ils ont dit plusieurs points intéressants.
Mm-hmm.
Est-ce que les autorités intéressantes, ils passent parfois à prendre le remède qui sont donnés par-ci par-là par les auditeurs?
Oui, je sais que plusieurs fois, nous avons aussi des échos, qui a de nos émissions sont largement suivies au niveau du ministère, au niveau des autorités. Je crois qu'il y a aussi des mesures qui sont prises en tenant compte de plusieurs interventions dans beaucoup des secteurs. On se rappellera qu'il y a eu beaucoup de décisions au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire il y a quelques temps, inspirées, bien sûr, vous rappellerez, hein, par rapport sur parole aux auditeurs, telles que l'autonomisation des extensions des universités. Il y a eu beaucoup de mesures comme ça. Nous avons vraiment des témoignages. Mais notre souci, c'est que les pistes de solutions soient proposées. Si les autorités nous écoutent, s'ils peuvent prendre en compte le point de vue des auditeurs, c'est très mieux aussi. Ça peut permettre à ce que nous puissions ensemble construire notre nation citoyenne. Maintenant, on vous écoute.
Merci beaucoup, M. Pierrot. En tout cas, c'est regrettable. Puisque je m'explique d'abord à ce que mon prédécesseur vient de parler à propos des éléphants qui sont en train de divaguer dans le district de Olomami. On risque de le perdre comme ça, puisque en 2012, en avril, j'avais mené une étude sur le terrain dans le parc Kundeluru. C'était toujours le même destin que nos éléphants qui ont traversé la frontière vers la Zambie aujourd'hui, si dans le parc Kundeluru, il n'y a plus des espèces là. Et maintenant, mes remèdes peut-être en bref, je leur ai dit ceci. La plupart des intervenants, ils ont donné le problème des infrastructures, de la sécurité et tout comme ça. Maintenant, ils ont oublié aussi de parler sur le sort ou la manière de vivre ou la condition sociale des membres des ICSN. En tout cas, c'est grave, monsieur Bureau. Quand on arrive dans le parc de Kundelungu, vous trouvez là-bas le garde-parc. Qui vous touche, je ne sais pas si c'est 25 à 30 000. Comment est-ce qu'ils pourront vivre avec ces 25 000 dans le parc? C'est-à-dire que pour encore l'encourager, eux aussi à encourager le braconnage au sein du parc. Deuxième aspect, le peuple libéré qui habite dans le couloir de différents parcs, et précisément dans le parc de Kundelungu. Ce sont ceux qui massacrent, qui tuent souvent les animaux, les espèces conservées dans le parc. Il y a le problème aussi des plantes ou des arbres qui sont tellement abattus du jour au jour. Aujourd'hui, sur Bombachibé, Rabitailleux, du côté de Brèze, ce sont des arbres abattus dans le parc de Kundelungu. Donc, il y en a plusieurs points que le gouvernement doit commencer d'abord à régulariser.
Oui.
Aussi à occuper le peuple riverain qui vit dans des parcs, à leur les occuper avec de différents emplois. Maintenant, ils ne vont plus s'intéresser à tuer les animaux, à
couper
des arbres et à faire des bêtises dans le parc. En tout cas, que le gouvernement puisse prendre vraiment, puisse quand même voir ce secteur-là. C'est un secteur qui surpasse peut-être même. Le problème des minéraux qu'on est en train de nous exploiter, nous laisse des trous. Même dans le parc, c'est déjà commencé.
Merci
dans
beaucoup.
Le couloir vers le Kafou, il y en a des artisans qui
Merci beaucoup, Stoyen. Voilà. Merci beaucoup, Stoyen, parce qu'on a deux auditeurs en ligne, Maurice à Kinshasa et Jules, alors qu'on est bousculé par les dernières minutes de l'émission. Mais vous souhaitez qu'on puisse améliorer les conditions de vie des gardes-parcs, hein, au niveau des l'ICSN, parce que si ils ne sont pas assez encadrés, ils vont se transformer en braconniers et détruire les espèces qui sont au niveau des parcs, mais encadrer aussi le peuple riverain, ceux qui sont, qui exploitent les longs de rivières. Merci beaucoup. On a deux auditeurs pour terminer cette émission. Maurice, ici à Kinshasa, et Jules, alors qu'on a plus encore beaucoup de temps. Maurice, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, J.A.
C'est Pierrot, Maurice.
Ah, vous avez Pierrot,
suivi,
bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres, les pistes des solutions, les problèmes, les diagnostics a été posé par les uns et les autres, mais aussi, qu'est-ce qui doit être fait, Maurice?
Bon, je pense que mes prédécesseurs ont dit presque l'essentiel. Mm-hmm. Mais moi, je voudrais dire que nous avons d'abord quelle image du pays, de notre pays, au niveau du monde, hein? Parce que nous dépendons, le secteur du tourisme dépend aussi de la crédibilité et de l'image qu'un pays peut véhiculer au reste du monde. Hein? C'est ça le grand problème dans notre pays ici. Et de deux, quelle est la quantité ici, je ne sais pas, vous disposez des informations, de frais ou de fonds alloués au secteur du tourisme ou au ministère du tourisme. Vous allez constater qu'il n'y a rien de consistant. Mmh. Donc, ce qui se passe ici, d'abord, on doit penser à la condition plutôt sine qua non qui doit sécuriser d'abord les touristes. Les touristes qui viennent doivent se sentir en sécurité. Mais vous êtes sans ignorer que notre pays est dans le club des pays à haut risque, les pays qui sont déconseillés aux touristes comme aux investisseurs. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que rien ne peut marcher dans les secteurs des touristes, rien ne peut marcher dans les secteurs aussi des investissements. Donc c'est vraiment, on doit revoir d'abord, donc on doit penser d'abord à la pacification, à la sécurisation. Donc c'est là d'abord les premiers facteurs même sur lesquels on devrait d'abord s'atteler. Merci. Avant de penser même comment il faut développer ce secteur-là des tourismes.
Merci.
Comme dans
notre secteur. Beaucoup. Merci beaucoup, Maurice. À 30 secondes pour Jules qui est à Kinshasa. Il faut d'abord la lutte contre l'insécurité, sécuriser les touristes pour que les pays soient vraiment fréquentables. Et comme ça va résoudre le problème et revoir aussi les budgets. Alors qu'on a que 30 secondes qui nous séparent de la fin de cette émission, Jules, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue pour terminer cette émission?
Je me résume parce que je n'ai pas assez de temps. Mm-hmm. Je dis, il y a un problème de volonté politique, hein, oui. Parce que personnellement, quand nous partons voir les 17 pour voir le lieu de l'assassinat de notre président Moïse Kabila, nous nous retrouvons que c'est vraiment difficile d'y accéder. Il faut avoir soit le passeport pour y accéder, c'est soit la langue, soit il lit, ou bien quelque chose pareil. Donc, je comprends qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire là-dessus.
Merci, Jules. Merci beaucoup, Jules. Vous pensez qu'il y a un problème de volonté et rendre les sites accessibles, la difficulté que vous avez pour accéder à l'endroit où le fait président Moïse a été assassiné. Merci beaucoup, hein, vous avez été nombreux. Une émission très riche. C'est par là que nous la terminons. On se retrouve le lundi 30 septembre prochain et nous allons parler de la non-violence et c'est là en marge de la célébration de la journée internationale de la non-violence. En RDC, il arrive parfois que les différentes tendances politiques se livrent à des actes d'intolérance. Pourtant, dans les axes proposés par les Nations Unies pour célébrer cette journée, il est souligné le développement de la compréhension, la tolérance et la solidarité. Comment y arriver? C'est la question pour lundi à 11h, 3 minutes, heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Bon week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir.